Charles Dickens, Barnabé Rudge. Traduction de Monsieur Bonhomé. Chapitre 66. Quoiqu'il n'eût pas eu de repos la nuit précédente, et qu'il eût veillé presque sans relâche depuis quelques semaines, ne dormant que dans le jour et à bâton rompu, M. Herdel, depuis l'aube du matin jusqu'au coucher du soleil, cherchait sa nièce partout où il pouvait croire qu'elle eût cherché un refuge. Tout le long du jour, rien, pas une goutte d'eau ne passait ses lèvres. Il avait beau poursuivre ses recherches au loin, de tous côtés, il ne s'était seulement pas assis, pas une fois. Tous les quartiers qu'il pouvait imaginer, et Chigwell, et Londres, et les maisons des artisans et commerçants à qui il avait affaire, et toutes ses connaissances, il n'avait rien négligé dans ses courses laborieuses. En proie à l'anxiété la plus harassante, aux appréhensions les plus pénibles, il allait de magistrat à magistrat, jusqu'au secrétaire d'État même. C'est de ce ministre seulement qu'il reçut un peu de consolation. Le gouvernement, lui dit-il, poussé par les factieux jusqu'aux dernières prérogatives de la couronne, était déterminé à en faire usage. On allait probablement publier le lendemain une proclamation qui donnerait à la force armée un pouvoir discrétionnaire et illimité pour la répression de l'émeute. Les sympathies du roi, de l'administration et des deux chambres du Parlement, comme aussi certainement des honnêtes gens de toutes les sectes religieuses, étaient acquises aux catholiques persécutés, et on était résolu à leur faire justice à tout risque et à tout prix. Il assura de plus que d'autres personnes, dont on avait incendié les maisons, avaient aussi pendant quelque temps perdu la trace de quelque enfant ou de quelque parent qu'ils avaient toujours à sa connaissance fini par retrouver, qu'on ne perdrait pas de vue sa déclaration, qu'on la recommanderait particulièrement dans les instructions transmises au chef de la police et à ses plus infimes agents, qu'on ne négligerait rien de ce qu'on pourrait faire en sa faveur et qu'on y apporterait toute la bonne volonté et la constance qu'il avait droit d'espérer. Reconnaissant de ces bonnes paroles, quelque peu rassurantes que fussent ses démarches antérieures, et sans se faire illusion sur l'espérance qu'il en devait concevoir pour le sujet de peine dont son cœur était dévoré, remerciant pourtant le ministre du fond du cœur pour l'intérêt qu'il lui témoignait dans son malheur et qu'il paraissait si bien ressentir, M. Herdel se retira et se trouva à l'entrée de la nuit, seul dans les rues, sans savoir seulement où aller reposer sa tête. Il entra dans un hôtel près de Charing Cross pour demander quelques rafraîchissements et un lit. Il s'aperçut que son air fatigué et abattu attirait l'attention de l'aubergiste et de ses serviteurs. Il eut l'idée que peut-être on supposait qu'il n'avait pas le sou. Il tira sa bourse et la mit sur la table. « Ce n'est pas cela, lui dit l'aubergiste d'une voix troublée. Il craignait seulement que monsieur ne fût une des victimes de l'émeute, auquel cas il n'oserait risquer de le recevoir chez lui. Il était père de famille et il avait déjà reçu deux avertissements de prendre garde aux hôtes qu'il admettrait dans son hôtel. Il en était bien fâché, et il en demandait bien pardon à monsieur, mais il ne pouvait faire autrement. Non, monsieur Herdel le sentait mieux que personne, c'est ce qu'il lui dit en quittant sa maison. Comprenant qu'il aurait dû s'y attendre, d'après ce qu'il avait vu le matin à Chigwell, où pas un homme n'avait osé toucher à une bêche en dépit de ses offres libérales pour venir fouiller les ruines de sa maison, il prit par le Strand, trop fier pour s'exposer encore à un refus, et d'un esprit trop généreux pour vouloir envelopper dans son chagrin ou sa ruine quelque honnête commerçant qui aurait été assez faible pour lui donner asile. Il errait donc dans une des rues parallèles à la Tamise, marchant au hasard d'un air soucieux et pensant à des choses bien anciennes dans son souvenir, quand il entendit un domestique crier à un autre en face, par la fenêtre, que la populace était en train de mettre le feu à Newgate. À Newgate, où était son homme? Sa force défaillante lui revint, et son énergie sur le moment fut 10 fois plus puissante que jamais. Quoi se pourrait-il faire? S'ils allaient délivrer l'assassin, et que lui, Herdel, après tout ce qu'il avait déjà souffert, finit par mourir sans avoir pu se laver du soupçon d'avoir égorgé son frère. Sans savoir seulement qu'il se dirigeait vers la prison, il ne s'arrêta que quand il fut en face d'elle. La foule y était en effet serrée et pressée, en une masse épaisse, sombre, mouvante, et on voyait les flammes prendre leur essor dans les airs. La tête lui tournait, mille lumières dansaient devant ses yeux, et il se débattait contre deux hommes qui arrêtaient son élan. « Non, non, disait l'un, Possédez-vous, mon bon monsieur, nous attirons ici l'attention. Allons-en, qu'est-ce que vous voulez faire dans tout ce monde-là ? C'est égal, le gentleman est pour qu'on fasse quelque chose, dit l'autre, l'entraînant tout en parlant. Je lui sais toujours gré de ça, je lui en sais bon gré. Pendant ce temps-là, ils avaient gagné une cour près de là, tout à fait à côté de la prison. Lui, il les regardait tour à tour et, en essayant de se remettre, il sentit qu'il n'était pas bien ferme sur ses jambes. Le premier qui lui avait parlé était le vieux gentleman qui l'avait vu chez le Lord Mayor. L'autre était John Groby, qu'il avait si bravement soutenu à Westminster. « Qu'est-ce que cela veut dire ? » demanda-t-il d'une voix défaillante. « Où donc nous sommes-nous rencontrés ?»« Derrière la foule, » répondit le distillateur. « Mais venez avec nous. Je vous en prie, venez avec nous. Il me semble que vous connaissez mon ami, que voilà. » « Certainement, » dit M. Herdel, le regardant avec une sorte de stupeur. « Eh bien, il vous dira, » reprit le vieux gentleman, « que je suis un homme à qui vous pouvez vous fier. Il me connaît, c'est mon domestique. Il était ici devant, comme vous savez, je crois, au service de Lord George Gordon, mais il l'a quitté, et par pur intérêt pour moi et quelques autres victimes désignées de l'émeute, il est venu me donner les renseignements qu'il a pu recueillir sur les desseins de ces misérables. » « C'est vrai, monsieur, dit John, mettant la main à son chapeau, mais vous savez, à une condition, c'est que vous ne porterez pas témoignage contre Milord. Un homme égaré, monsieur, mais au fond, un bon homme. Ce n'est pas Milord qui a jamais conduit ses complots. »« C'est une condition que j'observerai, vous pouvez en être sûr, répliqua le vieux distillateur. Je vous le garantis sur mon honneur, mais venez avec nous, monsieur, je vous en prie, venez avec nous. » John Groby, sans joindre ses instances à celles de son maître, adopta un autre moyen de persuasion plus direct en passant son bras dans celui de M. Herdel, pendant que son maître en faisait autant de son côté et en l'emmenant au plus tôt. M. Herdel, à l'étrange égarement de sa tête et à la difficulté qu'il éprouvait à fixer ses idées, tellement qu'il ne pouvait se rappeler ses nouveaux compagnons 2 minutes de suite sans les regarder tour à tour, sentit qu'il avait le cerveau troublé par l'agitation et la souffrance qu'il avait assailli depuis quelque temps et auxquelles il était encore en proie. Il se laissa donc emmener où il voulait. Tout le long du chemin, il avait le sentiment qu'il ne savait plus ce qu'il disait ni ce qu'il faisait et qu'il avait peur de devenir fou. Le distillateur demeurait, comme il le lui avait déjà dit lors de leur première rencontre, à Holborn Hill, où il avait de vastes magasins et où il faisait son commerce sur une grande échelle. Ils pénétrèrent chez lui par une porte de derrière pour ne pas attirer l'attention de la foule et montèrent dans une chambre sur le devant. Cependant, les fenêtres en étaient, comme toutes celles de la maison, fermées au volet pour qu'à l'extérieur tout parût dans l'obscurité. Ils le placèrent là, sur un sofa, tout à fait sans connaissance. Mais John, ayant couru tout de suite chercher un chirurgien qui lui fit une copieuse saignée, il reprit graduellement ses sens. Comme il était pour le moment trop faible pour marcher, ils n'eurent pas de peine à lui persuader de passer là la nuit et le mirent au lit sans perdre une minute. Cela fait, ils lui firent prendre un cordial et un biscuit avec une bonne potion fortifiante dont l'influence le plongea bientôt dans une léthargie où il oublia un instant toutes ses peines. Le négociant en vin, qui était un vieillard plein de cœur et tout à fait un digne homme, n'avait pas la moindre envie de se coucher lui-même, car il avait reçu des émeutiers plusieurs avertissements menaçants, et s'il était sorti ce soir-là, c'était précisément pour tâcher de savoir, dans les conversations de la populace, si ce n'était pas sa maison qu'on devait venir attaquer après. Il passa toute la nuit dans la même chambre, sur un fauteuil, faisant par-ci par-là un petit somme, et recevant de temps en temps les rapports de John Groby et de 3 ou 4 autres employés de confiance qui s'en allaient aux écoutes dans la foule. Il leur avait fait préparer, pour les soutenir, une bonne provision de comestibles dans la chambre voisine, et même, malgré son anxiété, il allait de temps en temps lui-même y chercher du réconfort. Ces rapports étaient tout d'abord d'une nature assez alarmante, mais à mesure que la nuit avançait, ils n'en furent que plus inquiétants et contenait de telles menaces de violence et de destruction qu'en comparaison de ce nouveau plan, tous les troubles antérieurs ne paraissaient rien. La première nouvelle qu'on lui apporta fut celle de la prise de Newgate et de la fuite de tous les prisonniers, dont la marche, à mesure qu'il montait par Holborn et les rues adjacentes, s'annonçait à tous les citoyens renfermés dans leurs maisons par le fracas de leurs chaînes, concert épouvantable qui s'entendait dans toutes les directions comme autant de forges en exercice. D'ailleurs, les flammes jetaient un tel éclat par les voûtes vitrées du distillateur que les chambres et les escaliers au-dessous étaient presque aussi bien éclairés qu'en plein jour, pendant que les clameurs éloignées de la multitude faisaient trembler jusqu'aux murailles et aux plafonds. À la fin, on les entendit approcher de la maison, et il y eut là quelques minutes d'une anxiété épouvantable. Ils arrivèrent tout près et s'arrêtèrent devant, mais après avoir poussé trois cris effroyables, ils continuèrent leur chemin, et quoiqu'ils revinssent cette nuit à plusieurs reprises, donnant chaque fois une nouvelle alarme, ils ne firent rien. Ils avaient les mains pleines. Peu de temps après qu'ils avaient disparu pour la première fois, un des éclaireurs du brave négociant accourut avec la nouvelle qu'il s'était arrêté devant la maison de Lord Mansfield dans Bloomsbury Square. Bientôt après, il en arriva un autre, puis le premier revint à son tour, et ainsi de suite, petit à petit, voici ce qu'ils racontèrent. L'attroupement qui s'était arrêté devant la maison de Lord Mansfield avait sommé les gens qui étaient dedans de leur ouvrir, et ne recevant point de réponse, Lord et Lady Mansfield s'échappaient en ce moment par une porte dérobée, ils étaient entrés de force selon leur habitude. Là, ils se mirent à démolir la maison avec la plus grande furie, et, y mettant le feu en plusieurs endroits, ils avaient enveloppé dans une ruine commune tout le mobilier qui était d'une grande valeur, l'argenterie, les bijoux, une magnifique galerie de tableaux, la plus rare collection de manuscrits qu'il y eût jamais eu au monde entre les mains d'un particulier, et, ce qui était pis encore, parce que c'était irréparable, l'immense bibliothèque de droit, contenant presque à chaque page des notes de la main même du juge et d'une valeur inestimable parce que c'était le résultat des études et de l'expérience de sa vie tout entière. Pendant qu'ils étaient à sauter en hurlant autour du feu, une troupe de soldats, un magistrat en tête, était survenue, trop tard il est vrai, pour empêcher le mal déjà fait. Mais pourtant, ils s'étaient mis à disperser la foule. On avait lu le Riot Act et, comme l'attroupement ne se dissipait pas, les soldats avaient reçu l'ordre de faire feu et, mettant leurs fusils en joue, avaient fait tomber roide de mort à la première décharge 6 hommes et 1 femme. Il y avait eu beaucoup de blessés. Ils avaient rechargé sur le champ, fait une seconde décharge, mais probablement en l'air, car on n'avait vu tomber personne. Là-dessus, effrayés sans doute aussi par les cris et le tumulte, la foule s'était mise à se disperser et soldats avaient avancé, laissant par terre les morts et les blessés. Mais ils n'avaient pas eu plus tôt le dos tourné, étaient revenus emporter les cadavres et les blessés pour faire une procession funèbre, les corps en tête. Ils avaient marché dans cet ordre, avec des éclats de gaieté horribles et sauvages, fixant des armes dans la main même des morts pour leur donner l'air d'être vivants, et précédés par un drôle qui agitait de toutes ses forces la cloche du dîner de Lord Mansfield. Les éclaireurs apportèrent encore que cette bande de mutins s'était renforcée d'un certain nombre d'autres gens qu'ils avaient rencontrés revenant de faire semblable besogne, et que, laissant seulement un détachement pour escorter les blessés et les morts, ils s'étaient mis en marche pour la maison de campagne de Lord Mansfield à Cownwood, entre Hampstead et Highgate, dans l'intention de lui faire subir le même sort qu'à la maison de ville et se promettant d'y allumer un feu qui, de cette hauteur, illuminerait Londres tout entier. Mais ils avaient été désappointés dans cette espérance par la rencontre d'un parti de cavalerie qui les attendait là et qu'ils avaient fait revenir plus vite qu'ils n'étaient allés tout droit à Londres. Chaque bande séparée qui s'était réformée dans les rues était allée de son côté se mettre à l'œuvre selon son caprice, et le feu avait été mis en un moment à 12 de maisons, parmi lesquelles celle de Sir John Fielding et de 2 autres juges de paix. On en avait incendié dans Holborn, alors un des carrefours les plus populeux de Londres, 4 autres qui brûlaient toutes à la fois et ne laissèrent bientôt plus qu'un amas de cendres, car le peuple avait coupé les tuyaux d'irrigation et n'avait pas voulu laisser les pompiers faire jouer leurs pompes. Dans une maison près de Moorfields, ils trouvèrent quelques serins en cage, ils les prirent et les jetèrent tout vivants dans les flammes. Les pauvres petites créatures criaient, dit-on, comme des enfants quand on les lança sur la braise. Il y eut même un homme qui, touché de leur sort, fit de vains efforts pour les sauver, à la grande indignation de la foule qui voulait lui faire un mauvais sort. Dans cette même maison, un des garnements qui avait parcouru les appartements, brisant les meubles et prêtant leur aide à la destruction de la maison, trouva une poupée de petite fille, un méchant jouet qu'il exposa par la fenêtre aux yeux de la populace dans la rue comme une idole qu'adoraient les habitants de la maison. Pendant ce temps-là, un autre de ses compagnons, qui avait la conscience aussi tendre, c'était justement ces deux hommes-là qui avaient été les premiers à faire rôtir tout vif les serins, s'assit sur le parapet de la maison pour adresser de là à la foule une harangue tirée d'une brochure mise en circulation par l'association sur les vrais principes du christianisme. Que faisait pendant ce temps-là le Lord Maire? Il avait les mains dans ses poches, contemplant tout cela du même œil qu'il aurait contemplé tout autre spectacle, charmé à le voir, d'avoir trouvé une bonne place. Tels furent les rapports communiqués au vieux négociant par ses serviteurs pendant qu'il était assis auprès du lit de M. Herdel, sans avoir pour ainsi dire fermé l'œil depuis le commencement de la nuit aux cris de la populace, à la lueur des divers incendies, au bruit de la fusillade des soldats. Si on ajoute à ces détails la mise en liberté de tous les prisonniers de la prison neuve à Clerkenwell, bon nombre de vols commis dans les rues contre les passants, car la foule pouvait faire à son aise tout ce qui lui venait dans la tête, telles furent les scènes dont, heureusement pour lui, M. Herdel ne se douta seulement pas et qui se passèrent toutes avant minuit. Chapitre 67. Quand les ténèbres commencèrent à faire place au jour, la ville avait un aspect étrange. C'est à peine si personne n'avait songé à se coucher de toute la nuit. L'inquiétude générale était si visible sur les visages des habitants, avec une expression si altérée par le défaut de sommeil, car tous ceux qui avaient quelque chose à perdre étaient restés sur pied depuis le lundi, qu'un étranger qui serait tombé dans les rues sans rien savoir aurait pu croire qu'il y avait quelque peste ou quelque épidémie qui désolait la ville. Au lieu de l'animation qui égaye d'habitude le matin, tout était mort et silencieux. Les boutiques restaient fermées, les bureaux et les magasins étaient clos, les stations de fiacres et de chaises à porteurs étaient désertes, pas une charrette, pas un wagon qui réveilla de ces chaos les rues paresseuses. Les cris des marchands ne se faisaient pas entendre, partout régnait un silence morne. Un grand nombre de gens étaient dehors dès avant le point du jour, mais ils glissaient plutôt qu'ils ne marchaient, comme s'ils avaient peur du bruit même de leurs pas. On aurait dit que la voie publique était plutôt hantée par des revenants que fréquentée par la population, et on voyait, autour des ruines fumantes, des ombres muettes écartées les unes des autres, qui n'osaient pas se risquer à blâmer les perturbateurs ou en avoir seulement l'air par leurs chuchotements. Chez le Lord Président, à Piccadilly, dans le palais Lambeth, chez le Lord Chancelier, dans Grant Ordnance Street, à la Bourse, à la Banque, à Guildhall, dans les Inns de la Cour, dans les salles de justice, dans chaque chambre ayant sa façade sur les rues des environs de Westminster et du Parlement, il y avait des détachements de soldats postés là avant le jour. Un corps de Horse Guards était en parade devant Palace Yard. On avait formé dans le parc un camp où 1500 hommes et 5 bataillons de la milice étaient sous les armes. La tour était fortifiée, les ponts-levis étaient dressés, les canons chargés et pointés avec 2 régiments d'artillerie occupés à renforcer la forteresse et à la mettre en état de défense. Un fort détachement de soldats stationnait sur le qui-vive à New River Head, que le peuple avait menacé d'attaquer et où l'on disait qu'ils avaient l'intention de couper les conduits afin qu'il n'y eût pas d'eau pour éteindre les flammes. Dans le marché à la volaille, à Cornhill, sur plusieurs autres points principaux, on avait tendu à travers les rues des chaînes de fer. Des escouades avaient été distribuées dans quelques vieilles églises de la cité pendant qu'il faisait encore nuit, ainsi que dans un certain nombre de maisons particulières, comme celle de Lord Buckingham à Grosvenor Square. On les avait barricadés comme pour y soutenir un siège avec des canons pointés aux fenêtres. le soleil, en se levant, éclaira des appartements somptueux remplis d'hommes armés, les meubles mis en tas dans les coins à la hâte et sans précaution, au milieu de la terreur du moment, les armes qui brillaient dans les chambres de la cité au milieu des pupitres, des tabourets, des livres poudreux, les petits cimetières enfumés dans les ruelles tortueuses et les rues de traverse, avec des soldats étendus parmi les tombes, ou flânant à l'ombre de quelques vieils arbres et leurs fusils en faisceaux étincelant au jour. Les sentinelles solitaires se promenant de long en large dans les cours de la cité, maintenant silencieuses, mais hier encore animées par le bruit et le mouvement des affaires. Enfin, partout, des postes militaires, des garnisons, des préparatifs menaçants. À mesure que le jour faisait fuir l'ombre, on voyait dans les rues des spectacles encore plus inaccoutumés. Les portes du banc du roi et des prisons de Fleet, quand on vint les ouvrir à l'heure ordinaire, se trouvèrent placardés d'avis annonçant que les émeutiers reviendraient cette nuit pour les réduire en cendres. Les directeurs, sachant qu'ils ne tiendraient que trop bien, selon toute apparence, leurs paroles, ne demandaient pas mieux que de lâcher leurs prisonniers et de leur permettre de déménager. De sorte que, tout le long du jour, ceux qui avaient quelques meubles s'occupèrent à les emporter, les uns ici, les autres là, la plupart chez des revendeurs pour en tirer le plus d'argent qu'ils pourraient. Parmi ces débiteurs incarcérés pour dette, il y en avait qui étaient si abattus par le long séjour qu'ils avaient fait en prison, si misérables, si dénués d'amis, si morts au monde, sans personne qui eût conservé leurs souvenirs ou qui leur eût gardé quelque intérêt, qu'ils suppliaient leur geôlier de ne pas leur rendre leur liberté et de les diriger sur quelque autre maison de force. Mais les geôliers n'en avaient garde. Ils craignaient trop de s'exposer à la colère de la populace et les mettaient à la porte, où ils erraient, ça et là, dans les rues, se rappelant à peine les chemins dont leurs pieds avaient depuis si longtemps perdu l'habitude. Et ces pauvres créatures, dégradées et pourries jusqu'au cœur par le séjour de la prison, s'en allaient, la larme à l'œil, ratatinées dans leurs haillons et traînant la savate tout le long de la chaussée. Parmi les 300 prisonniers eux-mêmes qui s'étaient échappés de Newgate, il y en avait un petit nombre, il est vrai, mais quelques-uns pourtant, qui cherchaient partout leur geôlier pour se remettre entre leurs mains, préférant l'emprisonnement et une punition nouvelle aux horreurs d'une nuit à passer encore comme la dernière. Plusieurs détenus, ramenés au lieu de leur ancienne captivité par quelque attrait indéfinissable ou par le désir de triompher de sa chute et de repaître leur ressentiment du plaisir de le voir réduit en cendres, ne craignaient pas d'y retourner en plein midi et de flâner autour des cachots. Ce jour-là, on en reprit 50 dans l'enceinte de la prison, ce qui n'empêcha pas les autres d'y retourner malgré tout, et de s'y faire prendre tout le long de la semaine, plusieurs fois par jour, par groupe de 2 ou 3. Sur les 50 dont nous venons de parler, il y en avait quelques-uns d'occupés à essayer de ranimer le feu, mais en général, ils ne semblaient avoir d'autre objet que de venir errer et se promener autour de leur ancienne résidence, car souvent on les trouva là, endormis au milieu des ruines, ou assis à causer ensemble, ou même occupés à boire et à manger, comme dans un lieu de plaisir. Outre les placards affichés aux portes des prisons de Fleet et du banc du roi, on déposa plusieurs avis pareils avant 1 heure de l'après-midi à la porte de quelques maisons particulières, et plus tard, l'émeute proclama son intention de se saisir de la banque, de la monnaie, de l'arsenal de Woolwich et des palais royaux. Ces avis étaient presque toujours distribués par un porteur seul, qui tantôt, si c'était une boutique, entrait pour le déposer, avec des menaces sanglantes peut-être sur le comptoir, tantôt, si c'était une maison bourgeoise, frappait à la porte et le remettait à la servante. Malgré la présence de la force armée dans chaque quartier de la ville et de la troupe nombreuse campée dans le parc, ces messagers continuèrent la distribution de leurs manifestes avec impunité tout le long de la journée. On vit de même 2 jeunes garçons descendre Holborn, armés de barreaux pris aux grilles de la maison de Lord Mansfield et quêtant de l'argent pour les émeutiers. On vit aussi un homme de haute taille aller à cheval dans Fleet Street faire une collecte pour le même objet. Celui-là refusait de recevoir autre chose que des pièces d'or. Il circulait aussi dans ce moment une rumeur qui répandait encore plus de terreur dans toute la ville de Londres que ses intentions mêmes annoncées publiquement d'avance par l'émeute, quoique tout le monde ne douta pas que la réussite de ses machinations ne dût entraîner une banqueroute nationale et la ruine générale. On disait qu'ils étaient résolus à ouvrir les portes de Bedlam et de lâcher les fous. C'était là ce qui présentait à l'esprit de la population des images si effrayantes et qui menaçaient en effet d'un attentat si fécond en horreur d'un nouveau genre dont l'imagination même ne pouvait se rendre compte, qu'il n'y avait pas de perte si importante ni de cruauté si barbare dont on n'eût plus volontiers couru le risque et que beaucoup d'hommes, jouissant de leur bon sens quelques heures auparavant, furent sur le point d'en perdre la tête. C'est ainsi que se passa la journée. Les prisonniers déménageaient, les gens couraient çà et là dans les rues, emportant ailleurs leurs meubles et leurs effets, des groupes silencieux restaient debout autour des maisons ruinées, tout commerce était suspendu, et les soldats, disposés dans l'ordre que nous avons vu, restaient dans une complète inaction. C'est ainsi que se passa la journée, en attendant la nuit qu'on voyait approcher avec terreur. Enfin, le soir, sur le coup de 7 heures, le conseil privé du roi publia une proclamation solennelle déclarant qu'il était devenu nécessaire d'employer la force armée, que les officiers avaient reçu l'ordre le plus direct et le plus formel de faire à l'instant usage de tous les moyens en leur pouvoir pour réprimer les troubles, que tous les sujets honnêtes de Sa Majesté étaient invités à rester chez eux cette nuit-là, eux, leurs domestiques et leurs apprentis. Puis on distribua aux soldats de service 36 cartouches par homme, on battit le tambour et toute la troupe fut sous les armes au soleil couchant. Les autorités municipales, stimulées par ces mesures de rigueur, se réunirent en assemblée générale, votèrent des remerciements aux autorités militaires pour le concours qu'elles voulaient bien prêter à l'administration civile, l'acceptèrent et placèrent les corps désignés sous la direction des deux shérifs. Dans le palais de la reine, une double garde, les yeomen de service, les officiers des menus plaisirs et tous les autres serviteurs furent placés dans les corridors et sur les escaliers à 7 heures, avec la recommandation expresse de veiller à leur poste toute la nuit. Puis on ferma toutes les portes. Les gentlemen du temple et autres inns montèrent la garde à l'intérieur de leur bâtiment et firent dépaver le devant de la rue pour barricader leurs portes. Dans Lincoln's Inn, ils cédèrent la grande salle et les communs à la milice du Northumberland, commandée par Lord Algernon Percy. Dans quelques quartiers de la cité, les bourgeois s'offrirent d'eux-mêmes et, sans forfanterie, firent bonne contenance. Des centaines de gentlemen forts et robustes vinrent se jeter armés jusqu'aux dents au milieu des salles des diverses compagnies, fermèrent à double tour et au verrou toutes les portes en disant aux factieux dont ils étaient entourés « Venez-y si vous l'osez et vous allez voir ». Tous ces arrangements faits simultanément ou à peu près furent complétés en attendant qu'il fît tout à fait noir. Les rues se trouvèrent comparativement dégagées, gardées aux quatre coins et dans les abords principaux par les troupes, pendant que des officiers à cheval allaient dans toutes les directions, ordonnant aux traînards qu'ils pouvaient rencontrer de rentrer chez eux et invitant les habitants à rester dans leur maison et même, en cas de fusillade, à ne pas approcher des fenêtres. On doubla les chaînes dressées dans les carrefours où l'on pouvait craindre davantage l'invasion des masses et on y établit des postes considérables de soldats. Quand on eut pris toutes ces précautions et qu'il fit tout à fait nuit, les commandants attendirent le résultat avec quelque anxiété, mais aussi avec quelque espérance que ces démonstrations vigoureuses suffiraient pour décourager la populace et prévenir de nouveaux désordres. Mais ils s'étaient cruellement trompés dans leurs calculs, car moins d'une heure après, comme si la tombée de la nuit eût été le signal arrêté d'avance, les émeutiers, ayant pris d'abord la précaution d'empêcher par petites bandes l'allumage des réverbères, se levèrent comme une mer en furie, se montrant à la fois sur tant de points différents et avec une rage si inconcevable que les officiers qui commandaient les troupes ne surent d'abord de quel côté se tourner ni que faire. De nouveaux incendies éclatèrent, l'un après l'autre, dans chaque quartier de la ville, comme si les insurgés avaient l'intention d'envelopper la cité dans un cercle de flammes qui, se resserrant petit à petit, la réduirait en cendres tout entière. La foule grouillait dans les rues comme une fourmilière, avec des cris affreux, et comme il n'y avait plus dehors que les perturbateurs d'un côté et les soldats de l'autre, ceux-ci pouvaient croire qu'ils voyaient là Londres tout entier rangé contre eux en bataille et qu'ils étaient seuls contre toute la ville. En 2 heures, 36 incendies, 36 conflagrations importantes étaient signalées, parmi lesquelles on comptait Borough Clink dans Tooley Street, le banc du roi, la prison de la Fleet et le nouveau Bridewell. Chaque rue était un champ de bataille. Dans chaque quartier, le bruit des mousquets de la troupe dominait les clameurs et le tumulte de la populace. La fusillade commença dans le marché à la volaille, où on avait tendu une chaîne au travers de la chaussée. C'est là que la première décharge tua du coup une vingtaine de factieux. Les soldats, après avoir à l'instant emporté leurs cadavres dans l'église Saint-Médard, firent feu une seconde fois et, serrant de près la foule qui avait commencé à céder passage en voyant l'exécution commencer, se reformèrent en ligne dans Cheapside et chargèrent à la baïonnette. Les rues offraient alors un horrible spectacle. Les huées de la canaille, les cris des femmes, les plaintes des blessés, le bruit incessant de la fusillade formaient un accompagnement étourdissant et épouvantable aux diverses scènes étalées sous les yeux à chaque bout. Là où le chemin était barré par des chaînes était aussi le fort du combat et le plus grand nombre de victimes, mais on peut dire qu'il n'y avait pas un carrefour important où l'affaire ne fût pas chaude et sanglante. À Holborn Bridge, à Holborn Hill, la confusion était plus grande que partout ailleurs, car la foule qui débordait de la cité en deux courants impétueux, l'un par Ludgate Hill et l'autre par Newgate Street, se réunissait là et formait une masse si compacte qu'à chaque décharge, les gens semblaient tomber par tas. On avait posté en cet endroit un gros détachement de soldats qui tiraient tantôt du côté de Fleet Market, tantôt du côté de Holborn ou de Snow Hill, balayant constamment les rues dans toutes les directions. Là aussi, il y avait plusieurs incendies considérables, de sorte que toutes les horreurs de cette nuit terrible semblaient s'être donné rendez-vous sur ce seul et même théâtre. Au moins 20 fois, les assaillants, ayant à leur tête un homme qui brandissait une hache dans sa main droite, monté sur un gros et grand cheval de brasseur, caparaçonné avec les chaînes emportées de Newgate, dont le cliquetis accompagnait chacun de ses pas, firent une tentative pour forcer le passage et mettre le feu à la maison du négociant en vain. Au moins 20 fois, ils furent repoussés avec perte, ce qui ne les empêcha pas de revenir à la charge. Et quoique le bandit qui était à leur tête fût bien reconnaissable et bien visible, car il n'y avait pas d'autres factieux à cheval, pas un coup ne put l'atteindre. Chaque fois que la fumée de la fusillade se dissipait, on était sûr de le trouver là, appelant ses compagnons de sa voix enrouée, brandissant toujours sa hache sur sa tête et prenant un nouvel élan, comme s'il portait un charme qui protégeât sa vie et qu'il fût à l'épreuve de la poudre et des balles. C'était Hugues. C'était lui qu'on voyait se multiplier sur tous les points dans l'émeute. C'était lui qui avait dirigé 2 attaques sur la banque, qui avait aidé à renverser les baraques de péage sur le pont de Blackfriars et en avait semé l'argent sur le pavé, qui avait mis le feu de sa propre main à 2 prisons, qui, ici, là, partout et toujours, était à l'avant-garde, toujours en mouvement, frappant les soldats, encourageant la foule, faisant entendre la musique de fer de son cheval à travers les cris et le tapage, sans jamais être atteint ni arrêté un moment. Cerné d'un côté, il se faisait jour de vive force ailleurs. Obligé de se retirer sur ce point, il avançait sur cet autre à l'instant même. Repoussé de Holborn pour la 20e fois, il poussait son cheval à la tête d'une grosse troupe d'insurgés droit à Saint-Paul, attaquait un poste de soldats chargé de la garde des prisonniers derrière les grilles, les forçait à la retraite, leur prenait les hommes dont il devait compte et avec ce renfort revenait à la charge dans le délire du vin et de la rage, les excitant de ses hurrahs comme un démon. Le plus habile cavalier aurait eu bien de la peine à rester à cheval au milieu d'une telle foule et d'un pareil tumulte. Mais, quoique ce furieux roulât sur la croupe, il n'avait pas de selle, comme un bateau ballotté par la mer, il n'était pas un instant embarrassé de se tenir ferme et de diriger sa monture partout où il voulait. Dans les rangs les plus épais et les plus pressés, sur les cadavres et les débris enflammés,
tantôt sur les trottoirs, tantôt sur la chaussée, tantôt poussant son cheval sur les marches d'un perron pour mieux se faire voir de son parti, tantôt enfin se frayant un passage dans une masse d'êtres vivants si serrés et si compacts qu'on n'aurait pas pu en couper une tranche avec la lame d'un couteau, il allait, toujours, sûr de surmonter tous les obstacles à son gré. Et peut-être est-ce à cette circonstance même qu'il devait de n'avoir pas encore reçu une balle, car son audace extrême et la certitude où l'on était qu'il devait être un de ceux dont la proclamation officielle avait mis à prix la capture, inspirait aux soldats le désir de le prendre vivant et détourner bien des coups qui, sans cela, ne se seraient pas égarés loin de lui. Le négociant et M. Herdel, ne pouvant plus rester tranquillement assis à écouter le bruit, sans voir ce qui se passait, avait grimpé sur le toit de la maison, et là, caché derrière une pile de cheminées, ils regardaient en bas, avec précaution, dans la rue. Ils avaient quelque espérance qu'après tant d'attaques toujours repoussées, les assaillants allaient céder, quand un grand cri leur annonça qu'un parti nouveau arrivait de l'autre côté, et quand l'effroyable fracas de ces fers maudits les avertit en même temps que c'était encore Hugues qui était à la tête de cette troupe. Les soldats s'étaient avancés dans Fleet Market, où ils étaient occupés à disperser la foule devant eux, ce qui permit aux assaillants de marcher sans rencontrer d'obstacles et d'arriver bientôt devant la maison. « Tout est perdu maintenant, » dit le négociant. « Dans une minute, voilà 50 000 livres sterling qui vont être jetées dans la rue. Il faut nous sauver. Nous ne pouvons plus rien faire. Trop heureux si nous pouvons seulement échapper. » Leur première idée avait été de se glisser comme ils pourraient le long des toits des maisons et d'aller frapper à la fenêtre de quelques mansardes pour qu'on leur permît de passer par là et de descendre dans la rue afin de se sauver. Mais un autre cri, plus furieux encore, monta de la populace, dont tous les visages en l'air étaient tournés vers eux, et l'on apprit qu'ils étaient découverts, que même on avait reconnu M. Herdel. Car Hugues, le voyant en plein, à la lueur du feu qui éclairait ce côté de la maison à Giorno, l'appela par son nom, en jurant qu'il voulait avoir sa vie. « Laissez-moi, » dit M. Herdel au négociant, « et au nom du ciel, mon bon ami, sauvez-vous. »« Viens-y donc, » marmottait-il entre ses dents, en se tournant du côté de Hugues et en lui faisant face, sans prendre davantage aucun souci de se cacher. « Le toit est haut, et si une fois je t'y tiens, je te réponds que nous mourrons ensemble. » « Folie, » dit l'honnête marchand en le tirant par derrière, « folie toute pure. Entendez raison, monsieur, mon bon monsieur, entendez raison. Je ne pourrai plus maintenant me faire ouvrir en allant cogner à quelques fenêtres, et quand je le pourrai, je ne trouverai personne d'assez hardi pour favoriser ma fuite. Traversons les caves. Il y a là, sur la rue de derrière, une espèce de passage par où nous entrons et sortons les tonneaux. Ne perdez pas un instant, venez avec moi, pour nous deux, pour moi, mon cher monsieur. » Tout en parlant, tout en tirant M. Herdel, il put comme lui jeter un coup d'œil sur la rue. Un simple coup d'œil, mais qui suffit pour leur montrer la foule se rassemblant, se resserrant et se pressant contre la maison. Les uns avec des armes, courant au premier rang pour enfoncer les portes et les fenêtres, les autres apportant des tisons du feu voisin, d'autres le nez en l'air, suivant des yeux leur course sur les toits et les montrant à leurs compagnons, tous furieux et mugissants, comme les flammes qu'ils avaient allumées. Ils virent des hommes avides des trésors de liqueurs fortes qu'ils savaient entasser là, ils en virent d'autres qui avaient été blessés, étendus par terre pour y mourir, dans les allées d'en face, misérables abandonnés au milieu de ce vaste rassemblement. Ici, une femme tout effrayée qui cherchait à s'échapper, là, un enfant perdu, plus loin, un ignoble ivrogne qui, sans s'apercevoir seulement d'une blessure mortelle qu'il avait reçue à la tête, criait et se battait jusqu'à la fin. Ils virent tout cela distinctement, même avec une foule d'incidents vulgaires, comme un homme qui avait perdu son chapeau, ou qui se retournait, ou qui se baissait, ou qui donnait une poignée de main à un autre, mais d'un coup d'œil si rapide que rien que le temps de faire un pas pour se retirer, ils avaient perdu de vue tout ce spectacle et ne voyaient plus que leur pâleur mutuelle et le ciel en feu sur leur tête. M. Herdel céda aux prières de son compagnon, plutôt parce qu'il était résolu à le défendre que par souci de sa propre vie et pour assurer sa fuite. Ils rentrèrent donc dans la maison et redescendirent ensemble l'escalier. Les cours roulaient comme le tonnerre sur les volets, Les pinces travaillaient déjà sous la porte, les vitres tombaient des croisées, une lumière éclatante brillait par les plus minces ouvertures, et ils entendaient parler les meneurs si près de chaque trou de serrure ou autre qu'on aurait dit que ces brigands leur murmuraient à l'oreille, d'une voix enrouée, des menaces de mort. Ils n'eurent que le temps d'arriver au bas des degrés de la cave et de fermer la porte derrière eux. La populace était entrée dans la maison. Les voûtes étaient d'une obscurité profonde, et comme ils n'avaient ni torche ni chandelle, ils se seraient bien gardés de trahir ainsi leur lieu de refuge. Ils étaient obligés de chercher leur chemin à tâtons. Mais ils ne furent pas longtemps sans y voir clair, car ils n'avaient encore fait que quelques pas lorsqu'ils entendirent l'émeute forcer la porte, et en jetant derrière eux un regard sous les arcades du corridor, ils purent les voir de loin se précipiter çà et là avec des flambeaux, mettre les tonneaux en perce, défoncer les cuves, tourner à droite, à gauche, dans les celliers et se jeter à plat ventre pour boire au ruisseau de spiritueux qui déjà coulait sur le sol. Les deux fugitifs n'en pressaient que mieux le pas, et déjà ils avaient pénétré jusqu'à la dernière voûte qui les séparait du passage, quand tout à coup, dans la direction où ils allaient, une vive lumière vint éclairer leur visage, et avant même qu'ils eussent pu se jeter sur le côté ou faire un pas en arrière ou chercher une cachette, deux hommes, dont l'un portait une torche, arrivèrent sur eux et s'écrièrent dans une espèce de murmure de saisissement « Les voilà !» Au même instant, ils jetèrent la coiffure postiche dont ils étaient affublés. M. Herdel vit devant lui Edward Chester. Et puis après, quand le négociant étonné eut la force d'ouvrir la bouche pour prononcer ce nom, Joe Willett. Vraiment oui, c'était bien Joe Willett en personne. Le même Joe, avec un bras de moins pourtant, qui tous les ans faisait à chaque trimestre un voyage sur la jument grise pour venir payer le mémoire du Rougeau marchand de vin. Et c'était ce même Rougeau marchand de vin, ci-devant de Thomas Street, qui, en ce moment, le regardait en face et l'appelait par son nom. « Donnez-moi la main, » dit Joe doucement, et qui plus est, la prenant de lui-même bon gré mal gré, « n'ayez pas peur de secouer la mienne, elle est à vous, de bon cœur. Malheureusement, elle n'a plus sa camarade. Mais avez-vous bonne mine, quel gaillard vous faites ! Et vous, que Dieu vous bénisse, monsieur. Prenez courage, prenez courage. Nous les retrouverons. Allez, n'ayez pas peur. Nous n'avons pas perdu notre temps. » Il y avait dans le langage de Joe quelque chose de si franc et de si honnête que M. Herdel, involontairement, lui mit la main dans la main, quoique leur rencontre ne laissât pas de lui être un peu suspecte. Mais le regard qu'il lança en même temps à Edward Chester, la direction avec laquelle ce jeune gentleman se tenait à l'écart, n'échappèrent pas à Joe, qui se mit à dire hardiment, en jetant aussi un coup d'œil du côté d'Edward, « Les temps sont bien changés, monsieur Herdel, et voilà le moment venu de distinguer nos amis de nos ennemis et de ne pas prendre les uns pour les autres. Permettez-moi de vous dire que sans ce gentleman, il est bien probable que vous ne seriez plus en vie à cette heure ou que vous seriez pour le moins grièvement blessé. » « Que dites-vous là ? » lui demanda monsieur Herdel. Je dis premièrement qu'il ne fallait déjà pas être capon pour aller dans la foule, déguisé comme un gueux de leur clique, mais passons là-dessus, j'y songe, puisque je me trouvais dans le même cas. Secondement, que c'est une action brave et glorieuse, voilà comme je l'appelle, d'avoir porté à ce gredin-là un coup qu'il a descendu de son cheval et sous leurs yeux. Quel gredin ? Sous les yeux de qui ? Quel gredin, monsieur, dit Joe. Un gredin qui ne vous veut guère du bien. Et qui a bien en lui l'étoffe de vin gredin, ou plutôt de vin diable. Ce n'est pas d'aujourd'hui que je le connais. S'il avait été une fois dans la maison, il vous aurait bien trouvé, lui, n'importe où. Les autres n'ont pas de rancune particulière contre vous, et tant qu'ils ne vous verront pas, ils ne songeront qu'à boire à mort. Mais nous perdons là notre temps. Êtes-vous prêt ? Oui, dit Edward. Éteignez la torche, Joe, et en avant. Surtout du silence, et vous serez un bon garçon. « Silence ou pas ?» murmura Joe en jetant la torche allumée par terre et en l'écrasant avec son pied, en même temps qu'il prenait M. Herdel par la main. « C'est égal. C'était toujours une action brave et glorieuse. Ça y est !» M. Herdel et le digne négociant étaient trop étonnés et trop pressés pour faire d'autres questions. Ils suivirent donc leur guide en silence. Seulement, après deux mots de chuchotement entre eux et le brave marchand sur le moyen le plus sûr de sortir de là, il apprit qu'ils étaient entrés par la porte de derrière grâce à la connivence de John Grubby qui faisait le guet dehors avec la clé dans sa poche et qu'ils avaient mis dans leur confidence. Comme il y avait justement une bande d'insurgés qui arrivait de ce côté au moment où il venait d'entrer, John avait refermé la porte à double tour et était allé chercher des soldats pour couper la retraite de ces malfaiteurs. Cependant, comme la porte de devant était enfoncée et que cette petite troupe, impatiente de se ruer sur les liquides, n'avait pas envie de perdre son temps à en enfoncer une autre, elle avait fait le tour et était entrée par Holborn avec les autres, laissant tout à fait libre et déserte l'étroite ruelle sur laquelle donnait le derrière de la maison. Ainsi donc, quand M. Herdel et ses compagnons eurent rampé par le passage qu'avait indiqué le négociant, ce n'était qu'une espèce de trappe mobile pour passer les tonneaux, et qu'ils eurent réussi avec quelque difficulté à déchaîner et lever la porte du fond, ils débouchèrent dans la rue sans avoir été observés ni interrompus par personne. Joe, qui n'avait pas lâché M. Herdel, et Edward, qui tenait bon aussi avec le négociant, se dépêchèrent de filer par les rues d'un pas rapide, se jetant seulement par occasion à l'écart pour laisser passer quelques fugitifs ou pour ne pas embarrasser la marche de quelques soldats qui arrivaient derrière eux au pas de course et dont les questions, quand ils s'arrêtèrent pour leur en faire, furent tout de suite satisfaites par un mot de réponse que Joe leur glissa à l'oreille.